et bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Géopolitique Asie. Nous nous intéressons cette semaine à l'Inde, le deuxième état le plus peuplé du monde. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à la place de la connaissance dans la construction de la puissance indienne. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir sur le plateau quatre invités. Je les laisse se présenter.
Bonjour à tous, je suis Sohan Murthy, fils de Ramana Murthy, qui est un directeur industriel automobile au sein de l'entreprise indienne Tata. Mon père a fait une grande partie de sa carrière à l'étranger après y avoir étudié, notamment aux États-Unis et en Suisse. J'ai suivi une partie de son parcours en faisant mes études également à l'étranger, à Harvard, aux États-Unis, pour revenir travailler en Inde en montant une start-up connectée à une filière américaine. J'ai 28 ans et je travaille dans la cité de Bangalore qui développe les hautes technologies au service de la connaissance.
Bonjour à tous, je m'appelle Diwan Jawapurna, je suis avocat dans le droit des enfants. J'ai travaillé pendant de nombreuses années auprès de nombreuses ONG, comme par exemple l'UNICEF, avec laquelle j'ai beaucoup de relations actuellement. Je travaille actuellement dans la région du Bihar, qui est une des régions les plus pauvres de l'Inde, dans laquelle j'ai le plus de travail auprès des enfants.
Bonjour à tous, je suis Mira Pinesh. Je viens de New Delhi où j'ai exercé mon métier de sociologue ces 20 dernières années. J'ai juste de terminer ma thèse sur l'impact qu'ont les castes sur l'accès à l'éducation chez les jeunes indiens. Je peux donc témoigner de par ce que j'ai pu observer lors de mon étude aujourd'hui.
Bonjour à tous, merci d'abord pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être ici et de pouvoir partager ma connaissance. Je suis Sri Anup Mathilal, j'ai 70 ans. J'ai étudié au Government College of Art and Craft à Calcutta, en spécialité économie, ce qui m'a permis d'étudier la place de l'art dans l'économie des pays. Je suis actuellement directeur du musée indien à Calcutta, qui est un magnifique musée, un des plus anciens du monde et le premier grand musée d'Asie, où vous pouvez même y voir les cendres de Bouddha, c'est vraiment le temple de la culture indienne.
Merci à chacun de vous. Nous avons prévu avec les internautes des questions qui correspondent à votre expérience ainsi qu'à votre domaine d'expertise. À la suite de ces questions, vous pourrez confronter vos points de vue afin de pouvoir tirer un bilan sur la situation quant à la connaissance en Inde aujourd'hui. Monsieur Murthy, comment évolue l'éducation et plus globalement l'accès à la connaissance en Inde de nos jours ?
Alors, ma position de jeune entrepreneur indien me permet de prendre conscience de l'évolution importante que connaît l'Inde par rapport à l'accès à la connaissance, et ce passant par l'enseignement qu'offre notre pays. Tout d'abord, grâce au développement de la connaissance indienne, à la mondialisation et à la délocalisation, mon père et moi avons pu nous intégrer à la société indienne, et contribuer à son développement de façon différente. L'éducation indienne est en plein essor et de diverses façons. Premièrement, de par les études disponibles à l'étranger pour les jeunes indiens. Deuxièmement, du point de vue de l'essor des nouvelles technologies. En effet, l'Inde est un pays qui se développe de façon exponentielle en termes de nouvelles technologies et je suis bien placée pour en attester. Travailler à Bangalore me permet d'affirmer que leur évolution conduit l'Inde à s'imposer en tant que puissance. La ville abrite plus de 700 centres de recherche et développement multinationales, environ 10 000 start-up et occupe la 5e place mondiale en tant que centre d'innovation. L'innovation est selon moi intimement liée à la connaissance et au savoir puisqu'elle le précède. Les nouvelles technologies permettent donc le développement de la connaissance et facilitent son accès en Inde, notamment de par Internet qui, à terme, permet le développement de l'éducation.
Merci pour votre réponse. Maintenant, Monsieur Jawapurna, quelles sont selon vous les difficultés quant à l'accès à l'éducation en Inde ?
Alors pour moi, il existe deux enjeux principaux pour l'accès à l'éducation en Inde. Le premier est la scolarisation des enfants, un problème qui est résolu assez majoritairement en Inde, car 98,7% des enfants de moins de 14 ans vont à l'école, selon l'UNICEF. Après, le deuxième problème qu'il resterait à régler est celui du travail des enfants en Inde. 5 millions d'enfants travaillent alors qu'ils ont moins de 14 ans, ce qui est illégal par les lois de l'ONU. Et les personnes qui font travailler des enfants peuvent encourir jusqu'à un an d'emprisonnement et 300 euros d'amende, ce qui est une peine dérisoire par rapport à ce qu'elle devrait être. Il y a également le travail des mineurs, qui a un poids également très important dans l'économie indienne, car il représente 20% du PIB total, et également 10 millions d'enfants qui seraient victimes de travail forcé avec des conditions de travail exécrables. Ils pourraient travailler par exemple attachés à leur propre au métier à tisser sur lequel ils travaillent, ce qui est une situation inacceptable.
Merci Monsieur Jawapurna pour votre réponse. Madame Pinesh, selon vous, existe-t-il des inégalités concernant l'accès à la connaissance ?
Oui, puisque un des clivages sociaux importants en Inde demeure le système des castes. Même s'il a été aboli par la Constitution, son influence persiste dans la société indienne. Elle détermine les possibilités individuelles, sur tous les plans, parce qu'elles sont associées à une hérédité professionnelle et sociale. Cela a donc un impact majeur sur la vie future de l'individu. Je pense ici aux aborigènes et à la minorité musulmane qui constituent les groupes les plus exclus du système scolaire, surtout à partir de l'école secondaire et encore plus pour les filles. Moins de 20% des jeunes musulmans en Inde complètent l'école secondaire et moins de 5% obtiennent un diplôme universitaire. Certaines classes de la communauté musulmane s'en tirent mieux, mais la situation générale tend à se détériorer. Je tiens également à souligner que l'accès à Internet reste un privilège en Inde. Seuls 26% de la population y a accès, contre 74,5% des Américains. Or, de nos jours, Internet représente un réel enjeu quant à l'acquisition et la diffusion des connaissances, surtout chez les étudiants.
Merci pour cet éclaircissement. Maintenant, quant au niveau économique, Monsieur Matilal, quels impacts ont les étudiants sur l'économie indienne ?
Alors, tout d'abord, on peut dire que les étudiants ne sont jamais autant partis, mais l'économie indienne n'a jamais été aussi florissante. Et on le voit par les chiffres, par le PIB par exemple, qui est de 2,7 milliards de milliards de dollars, et qui a même dépassé celui de la France en 2017, ce qui est considérable. Et donc presque 8%, soit 250 milliards de dollars, provient des nouvelles technologies. Et donc, évidemment, des jeunes qui vont certes se former à l'étranger, mais qui reviennent. On ne peut donc pas parler de la fuite des cerveaux comme certains le disent souvent. De plus, on peut parler du soft power indien qui, comme l'a dit Swan Murthy, a permis, grâce aux étudiants, une extension considérable de l'influence et de l'attractivité de l'Inde. Et cela, je le vois moi-même en tant que directeur de musée depuis plusieurs dizaines d'années. J'ai vu une réelle évolution de l'intérêt mondial pour la culture indienne et les chiffres parlent encore d'eux-mêmes. On est à 6,4% du PIB qui provient du tourisme, mais c'est surtout l'évolution qui est intéressante puisque plus de 229% depuis, il y a eu une évolution de 229% depuis les années 90. On peut aussi parler de l'emploi que cela génère, 40 millions d'emplois dans le secteur du tourisme et aussi le nombre de touristes qui a considérablement augmenté et qui est maintenant en 2020 de 11 millions de touristes, dont 16% proviennent des USA. On peut donc dire que les connaissances apportées par les étudiants et qui font la culture indienne ont permis un essor économique qui lui-même, au final, a permis l'émergence de la puissance indienne ces dernières années. Les connaissances ont donc une place importante dans la construction de la puissance indienne à mon sens.
Merci à tous pour ces informations qui nous permettent de voir désormais plus clair sur la situation actuelle quant à l'accès à la connaissance ainsi que l'éducation en Inde. Vous pouvez dès à présent prendre la parole pour revenir sur des réponses qu'ont données les invités et confronter vos points de vue.
Alors effectivement, je souhaiterais revenir sur un sujet important qui concerne l'accès à l'école et à l'éducation. L'accès à l'éducation se démocratise fortement en Inde de par la création de grandes écoles publiques d'ingénieurs telles que l'Institut Indien de Technologie, WIT, basé dans la capitale indienne, qui forme les plus grands ingénieurs de notre pays et alimente la cité de Bangalore. De plus, l'éducation pour la jeunesse indienne est disponible à l'étranger. En effet, la France avait la volonté de recevoir environ 10 000 étudiants indiens avant la crise sanitaire actuelle, d'ici 2021, soit 4 fois plus qu'en 2016. Et les États-Unis connaissent un nombre d'étudiants indiens qui a doublé entre 2012 et 2018, passant de 95 000 à 190 000, d'après la CNN, et j'ai pu donc moi-même faire les frais de cette éducation à l'étranger, en étudiant à Harvard, comme je vous l'ai précédemment indiqué.
Alors je voudrais revenir sur certains points que vous avez évoqués. Comme par exemple le pourcentage des écoles publiques dans le supérieur en Inde, qui est très faible, il est actuellement de 15-20%. Donc cela empêche une vraie diffusion de la connaissance. Également, je pense qu'il serait plus judicieux d'embaucher des instituteurs étrangers déjà expérimentés, plutôt que de laisser les étudiants indiens partir à l'étranger. Car comme ça, nous serions sûrs de profiter d'une connaissance étrangère pour développer la nôtre. Ce fonctionnement pourrait également faire que nous aurions nos propres innovations à vendre sur le marché mondial, ce qui entraînerait l'économie indienne dans une spirale positive.
Alors j'aimerais apporter mon opinion, qui est qu'il faut bien commencer par former une élite dans un pays où l'accès à la connaissance peut nous servir d'exemple, puis que ces étudiants qui sont partis dans ces pays, donc comme vous l'avez dit, il me semble les États-Unis, reviennent ensuite pour à leur tour former une élite dans leur pays. Je pense juste qu'il faut laisser le temps à l'Inde, car elle revient de loin, et on voit que pour l'instant ce système fonctionne, puisque l'économie de l'Inde, comme je l'ai dit au tout début, n'a jamais été aussi florissante.
Alors, Monsieur Sri Anup Mathital, j'aimerais revenir sur ce dont vous avez dit tout à l'heure. Vous avez donc vanté le PIB de l'Inde. Cependant, il ne faut pas oublier que la portée sociétale de ce progrès économique a été très limitée. L'Inde est distanciée par tous les autres pays d'Asie du Sud, à l'exception du Pakistan, selon notamment de nombreux indicateurs sociaux, comme la baisse du taux de fécondité, l'alphabétisation, le taux de participation des femmes à la vie active, encore l'espérance de vie ou les accès aux soins et à la santé.
Alors, revenons sur l'alphabétisation des femmes, que je trouve très intéressant, car selon mes chiffres, qui proviennent de l'UNICEF, les femmes de 15 à 24 ans sont alphabétisées à 75% contre 88% pour les hommes. On voit quand même une large évolution depuis les années 90, puisque l'alphabétisation de l'Inde était à peine à 50%. Donc on peut aussi dire qu'on voit une réelle avancée dans l'accès aux connaissances finalement.
Pour réagir sur vos chiffres, Monsieur Mathilal, je trouve que 13 points de pourcentage d'écart entre l'alphabétisation des hommes et des femmes est beaucoup trop important pour un pays qui voudrait se déclarer comme développé. Donc il faudrait avoir une éducation intensive et plus égalitaire, notamment pour les femmes.
Donc pour compléter votre propos, je tiens à préciser que le salaire minimum défini par l'État central indien est de 160 roupies, soit 2,22 € par jour, et donc 57 € par mois. Et ce minima est très largement inférieur au salaire vital et ne suffit pas à assurer une vie décente, d'autant que les lois sur les horaires de travail sont très peu respectées. Et donc, pour en revenir à la condition des femmes, elles sont d'autant plus affectées puisqu'elles reçoivent des salaires journaliers inférieurs en moyenne de 25% à ceux des hommes.
Il est donc très clair que des inégalités sont persistantes en Inde, notamment à l'accès à la connaissance et à l'éducation. Effectivement, les inégalités entre les hommes et les femmes sont d'autant plus persistantes et indéniables, ce qui remet fortement en place la question de la femme dans la société indienne.
C'est en effet un thème très intéressant qui pourrait être abordé dans un prochain podcast. Merci à chacun de vous pour votre participation aujourd'hui. Nous avons donc vu que l'Inde a encore beaucoup de progrès à faire quant à son éducation et son accès à la connaissance pour consolider sa puissance mondiale. Encore merci à tous et à bientôt.
Merci à vous.
Merci à tous, au revoir, à bientôt.